franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par une élection présidentielle encore. On vote aujourd'hui en Iran.
Non, je ne voterai pas même pour Rouhani. Tous les candidats sont issus du même système. Voilà ce que dit une jeune fille, Elam, à Georges Malbruno, l'envoyé spécial du Figaro à Téhéran. Mais non, non, rétorque un autre. Il faut absolument faire barrage à Raïssi. C'est comme chez vous en France, il fallait voter Macron au second tour pour empêcher Le Pen d'être élu. Une illustration de la francophilie qui perdure décidément en Iran. Illustration aussi que décidément également le clivage système anti-système. Le système traverse tous les pays au-delà de situations politiques très différentes. En Iran, nous explique Yves Bourdillon dans Les Échos, ce qui se joue, c'est le choix entre la poursuite de l'ouverture internationale avec le président sortant Rouhani et l'isolement, voire le retour à une confrontation souterraine avec l'Occident via l'élection de Raïssi. Une opposition, là encore, entre les partisans de la mondialisation et ceux plus enclins à l'isolationnisme. Mais ce qu'il faut lire ce matin sur l'Iran, ce sont les articles de Courrier International sur la génération qui ose. Un, notamment, le reportage exclusif du quotidien belge des Morgan. Il raconte la vie sexuelle débridée d'une partie de la jeunesse de Téhéran. Un récit absolument incroyable du journaliste qui a assisté à des scènes de libertinage, voire de sexe collectif, et qui ont parfois lieu d'ailleurs dans le jardin d'un chef spirituel haut placé. Alors en son absence, évidemment, c'est sa fille qui était à l'initiative. Scènes de dating opérées au volant des voitures dans les embouteillages de Téhéran. Mais ce que le journaliste explique surtout, c'est le sens politique de cette effervescence sexuelle. Nous appelons cela notre révolution ludique, lui dit un jeune homme. Comme tout est interdit, tout devient possible. Protester dans la rue reste en effet extrêmement dangereux. Du coup, avance une anthropologue, la seule façon pour les jeunes d'exprimer leur mécontentement est de transgresser dans la sphère privée les règles instaurées par le régime. Plus que les hommes encore, ce sont les femmes qui prennent l'initiative de la révolte sexuelle parce que ce sont elles qui paient le prix le plus lourd, évidemment, des lois absurdes de la République islamique. Le régime et ses gardiens de la révolution mènent une chasse sans répit à ces libertins, mais derrière les hauts murs des villas cossues de Téhéran Nord, l'alcool coule, les corps se mélangent, la jeunesse iranienne se joue des interdits pour mener au moins sa révolution de l'intime.
Retour en France, Hélène. Premier conseil des ministres hier et un discours de la méthode du président qui fait déjà grincer des dents.
Autorité, collégialité, confidentialité, c'est le mantra délivré hier au président à ses ministres. Ce quinquennat s'ouvre sous le règne d'une communication ultra contrôlée, souligne Laure Breton dans Libération. Ce qui n'empêchera nullement, prédit le journal, les points de friction entre ministres. Clash en stock, prévient le journal à sa une. Mais c'est surtout la communication très verrouillée du nouveau président qui inquiète et qui inquiète les journalistes. D'ailleurs, plusieurs médias, dont France Inter, ont protesté hier dans une lettre ouverte contre la tentation de l'Élysée de vouloir désormais choisir ses journalistes pour couvrir ces événements. Une série en fait de petits agacements qui nourrit le soupçon d'un cadenassage. Alors on n'est pas en Iran non plus, je vous rassure. Mais pour comprendre les nouvelles visées de l'Élysée en matière de maîtrise de communication, il faut lire l'enquête de Zineb Drieff et Laurent Tello dans M, le magazine du Monde, sur la super production Emmanuel Macron. Les auteurs y racontent comment dans la boîte de prod du nouveau président, il y a des modèles, Obama, la référence absolue, comme scénarisé et léché comme un blockbuster américain, cadenassé à triple tour pour donner l'image du président le plus cool de l'univers, et évidemment des contre-modèles, François Hollande et sa présidence bavarde. Un des plus proches d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, désormais conseiller spécial du président, qui fut son stratège en com pendant la campagne, est resté traumatisé par l'expérience vécue chez DSK. Il avait 17 ans à l'époque, il était petit de main dans l'équipe de campagne du candidat Strauss-Kahn, et il a assisté en spectateur au cataclysme du Sofitel. Il a développé alors une méfiance incurable à l'égard de la presse, une méfiance partagée par son nouveau patron. Les médias, c'est le système, faut s'en affranchir. L'objectif est donc de les tenir à bonne distance. Alors ça a été fait pendant la campagne, il y a quelques anecdotes croustillantes. Ça s'est accru quand Macron candidat a dû se dissoudre pour devenir Macron président. Cette fois, ce sont les mannes de François Mitterrand et de Jacques Pilan qui sont invoquées. Raréfaction de la parole et art de l'éclipse. Les journalistes de M détaillent tous les contre-pieds pris avec François Hollande, pas de copinage avec les journalistes, pas de off, le contrôle, toujours le contrôle. Un contrôle aussi de l'intime avec le rôle désormais connu de Mimi, Mimi Marchand, reine des paparazzi et des paparazzades, qui a obtenu un accès exclusif du couple Macron et qui l'a fait rentrer quand il était encore en mal de notoriété dans les salons de coiffure et dans les salles d'attente en multipliant les unes de Paris Match. Enquête donc sur la fine équipe du président qui espère écrire un roman présidentiel bien différent du précédent, mais qui a déjà connu quelques ratés, épisode de la rotonde par exemple au soir du premier tour où l'on découvre des conseillers presse ivres de rage et menaçants à l'encontre des journalistes. Pas de photos vendues par Mimi pour cette enquête à la une de M, mais des illustrations d'Artus de Lavilléon.
On termine par des chiffres qui ont retenu l'attention de la presse ce matin.
404 millions d'euros et maintenant il doit payer, affiche Le Parisien aujourd'hui en France à sa une. 404 millions, c'est la somme que la Cour de cassation condamne Bernard Tapie à rembourser. Épilogue de 25 ans du catch judiciaire qu'a opposé l'homme d'affaires à l'ex-Crédit Lyonnais au sujet de la vente Adidas. Alors, 404 millions d'euros, ça ressemble à quoi? C'est un exercice qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme, il faut toujours donner des comparatifs. Alors là, c'est un petit côté absurde qui est réjouissant dans Le Parisien ce matin. 404 millions d'euros, c'est 40 600 fois le salaire d'un ministre ou 40 voiliers Fosséa ou encore 4 300 000 paires de Stan Smith. Mais que pourrait-on bien faire de 4 millions de Stan Smith? Autre chiffre plus sérieux, dévoilé celui-ci par le site Les Nouvelles News, 35%. 35% c'est la proportion de femmes investies pour les prochaines législatives par l'UDI. Faute de respecter la parité dans ses candidatures, le parti centriste va devoir se priver de la quasi-totalité de l'aide publique liée à ces élections. Car cette aide prend en compte le nombre de parlementaires finalement élus, mais pour moitié aussi les candidats et candidates. Et il met à l'amende ceux qui ne jouent pas le jeu de la parité. Les Républicains, eux, ne franchissent toujours pas la barre des 40% de femmes, ce qui vaudra au parti également une retenue d'un tiers sur le montant de l'aide publique. Le PS y est presque. Quant à La République En Marche, la France Insoumise, le Front National, le PC et les écologistes, eh bien là, le compte est bon. Ils affichent une stricte parité, de quoi espérer le 18 juin, conclut Arnaud Biel, des femmes plus nombreuses dans l'hémicycle et peut-être permettre à la France de progresser par rapport à la peu glorieuse 36e place mondiale qu'elle occupe encore dans ce domaine.
Merci à vous Hélène Jouan et je rejoins l'une de vos recommandations de ces derniers jours parce que j'ai lu depuis que vous en avez parlé le Sofilm spécial
formidable,
Cannes avec
formidable.
Des dizaines d'histoires. Oui, c'est formidable. Voilà, il faut le dire.